Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
La saison estivale arrive à grands pas sur l'Île-Dieu. On fait le point en compagnie d'Anne Lemasson, directrice de l'Office de tourisme. Bonjour.
Bonjour.
Et Michel Charot, deuxième adjoint chargé du développement économique à la mairie de l'Île-Dieu. Bonjour Michel.
Salut Roland.
À l'Office de tourisme, la saison estivale, c'est du 14 juillet au 20 août ou dès le mois d'avril jusqu'à fin septembre. L'Île-Dieu est en période estivale. Anne ou Michel ?
Alors moi, je vais plus étaler que la période qui est proposée.
Je t'en prie, Anne.
Dès le 15 mars, cette année, nous avons eu les premiers touristes du fait de la création des sentiers de randonnée. On en a parlé longuement sur cette antenne.
Si tu veux rappeler un peu le principe, je t'en prie.
C'est vrai, Anne, que c'est un projet qui a pris pas mal d'années sur l'Île-Dieu, mais qui a vu le jour l'an dernier et puis qui a eu sa vitesse de croisière dès le début d'année, puisqu'on a vu les premiers groupes arriver sur ces sentiers. Donc, il y a le GR80 qui est reconnu, qui est dans tous les topo guides et qui est reconnu par la Fédération française. Et puis, en parallèle, nous avons 5 petites sentes d'une durée de 3 heures de balade chacune, qui permet à la fois de faire un séjour sur l'Île-Dieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de qualifier ce touriste, qu'il ne vienne pas que de passage, mais qu'il ait envie de venir passer 2-3 jours.
Là, c'est plutôt des touristes pédestres. Le GR80.
Oui, tourisme pédestre, mais on n'oublie pas pour autant le tourisme à vélo, puisque c'est quand même une destination vélo ici, sur l'Île-Dieu. Quelques chiffres quand même sur ce premier trimestre, puisque sur le premier trimestre, on a eu plus de 60% d'appels téléphoniques.
Alors, à l'Office de tourisme.
À l'Office de tourisme. Alors ça s'explique.
Premier semestre 2015.
Oui, oui. Ça s'explique puisque nous avons fait beaucoup de salons. Nous avons fait le salon de Rennes, nous avons fait le salon de Nantes et nous avons fait Yeux débarque à Nantes. Donc sur une clientèle qui est déjà ciblée et qui vient sur l'Île-Dieu, mais qui ne vient pas encore en nombre, la preuve, puisque ces 60% d'appels téléphoniques ont bien été là. Ça ne veut pas dire que derrière, il y a eu envie de séjour, mais il y a eu l'appel téléphonique.
Ils se sont informés.
Ils se sont informés.
Michel, tu avais quelque chose à rajouter ?
Oui, oui, je crois que ça relie avec une question beaucoup plus large que tu aurais certainement eu envie de nous poser, Roland. C'est la question du hors-saison. C'est-à-dire
on allait venir enfin, mais je t'en prie, si tu veux parler du hors-saison maintenant, je t'en prie.
Justement dedans, là. Donc, Anne vient déjà de dire que la création du GR80 et 500 avait fortement contribué à l'avenue du tourisme beaucoup plus tôt qu'habituellement. Il faut se rappeler que ce tourisme hors saison fait partie des orientations que nous sommes données durant la campagne des municipales, parce qu'il faut qu'on arrive à vivre à l'année. Il faut qu'on arrive à vivre à l'année. Et pour ça, nous avons démarré actuellement aussi un travail sur le développement aussi du vélo. Anne vient de rappeler, il y a tout un travail qui est en cours.
Comment ça va se développer, le vélo sur l'Île-Dieu ?
Ben, il faut que nous arrivions, et ça nous le faisons en lien avec les loueurs de vélo, et ben, il faut que nous élaborions, et nous sommes en train de le faire, tout un plan d'aménagement de chemins, en plus de la seule piste cyclable qui existe pour l'instant, donc des chemins cyclables, et qui on est tout un réseau, en fait, c'est-à-dire que l'utilisation du vélo puisse se faire sur l'ensemble des différentes parties du territoire de l'Île-Dieu.
En gros, qu'on ne mélange plus les voitures et les vélos, ou qu'il y ait un chemin pour les vélos à côté des voitures, c'est ce que tu essaies de nous dire, Michel.
Ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est en priorité avoir des chemins qui soient le plus possible en dehors des voies pour voitures. Forcément, à un moment ou à un autre, on rencontrera aussi dans des voies. À des moments ou à un autre, on sera obligé aussi de prendre des voies non voitures. Mais l'idée, c'est d'avoir véritablement au maximum un réseau vélo.
C'est vrai que c'est plus agréable de se balader en vélo quand il n'y a pas de voiture.
Tout à fait. Donc ça, on ne pourra pas tout faire d'un coup. Donc on va se donner des priorités. Mais nous avons exposé là récemment dans un bureau municipal ce que pourrait être ce plan. Bon, il y a quelques endroits qui posent problème parce que il y a des endroits, par exemple, pour sortir. En fait, là où c'est problématique, c'est quand on veut sortir du port. Voilà. Mm-hmm. Les sorties du port, qu'on le prenne par n'importe quel bout, pose problème. Voilà. Mais une fois qu'on arrive à sortir dans du port, on peut avoir des axes qui soient très agréables pour faire à bicyclette. Donc ça, c'est un premier élément. Enfin, un deuxième, en plus des
descentes et du GR80,
oui. Mais autre élément aussi, par exemple, nous avons investi dans le camping municipal, dans des hébergements qui soient adaptés aux personnes, c'est-à-dire des tentes aménagées qui veulent venir un peu plus tôt que ceux qui vont venir directement sous leur propre tente, quoi.
Oui, c'est des grandes tentes ou bien des mobiles, une petite sorte de mobile home.
Voilà.
Enfin, d'échelle, si vous préférez.
Voilà, c'est ça. Donc là, les tentes aménagées permettent d'être sous tente, mais avec un confort qui permet de venir déjà un peu plus tôt en saison, quoi.
Des vrais lits, un chauffage, non ?
Des vrais chauffage, non, mais vrais lits, oui.
Dans les chalets, par contre, il y a des chauffages, on
est
bien d'accord.
Dans les chalets, oui, mais je parlais des tentes aménagées. Voilà. Voilà, ça, c'est une deuxième réponse. Et puis, la troisième réponse, enfin, la quatrième, si on prend aussi les centres, ce sont les événements. Donc, on essaie, vous avez pu voir, au fur et à mesure, d'avoir des événements qui permettent d'anticiper un peu sur la saison ou des événements qui retardent un peu la saison. Bon, dans les anticipations de saison, c'est par exemple le trail, bien évidemment, hein, qui connaît une fréquentation très importante, à tel point que on doit, enfin, ceux qui animent le trail doivent refuser du monde, parce que sinon on n'aurait pas de quoi les héberger et de quoi les faire passer la mer par bateau.
Il y a aussi le triathlon en fin de saison.
Le triathlon en fin de saison, il y a la va en avant-saison.
Au mois de mai, on rappelle.
Oui. Voilà, c'est tout ça, en fait, qui contribue. Alors, on y va progressivement, mais ça reste toujours un axe que l'on se donne et qui, manifestement, réussit.
Je pense qu'il y a aussi quelques concerts qui peuvent potentiellement apporter du monde. Je pense notamment à Malten Milk et Tony Green, dernièrement.
Exactement. Voilà, c'est ça.
Anne, quelque chose à rajouter, peut-être ?
Peut-être quelques chiffres que j'avais pris avec moi là. En avril-mai, par exemple, on a eu 32 000 visiteurs sur l'île. Hein, sur l'île, alors, quand on met tous les transports confondus ensemble, et ce qui représente 18 000 visiteurs à l'Office de tourisme. Donc presque 50% de ces visiteurs sont venus nous voir.
C'est une belle performance pour l'Office de tourisme.
Oui, parce
T'es
que
plutôt contente.
Oui, je suis très contente parce que la proportion est moins élevée en été. Donc ça veut dire que sur avril-mai, ils viennent à l'abri à l'Office de tourisme.
Ou ils cherchent plus de choses à faire.
Je pense qu'ils cherchent l'information. On a plus de temps à leur consacrer, ils le savent, en avril-mai. Et on va être beaucoup plus conseillés sur ces périodes-là. Donc pour nous, ce sont des bons chiffres de fréquentation, en tout cas en ce qui nous concerne.
Et ce sont des vacances actives que les gens viennent chercher à l'île-dieu.
D'ailleurs, ils viennent chercher quoi hors période estivale, les gens sur l'île-dieu, à part le GR80 et les pistes cyclables, enfin le vélo.
La grande thématique, c'est la nature.
Ouais.
C'est la nature, retrouver la nature, retrouver une île préservée. Et ça, ils insistent.
Authenticité, je crois que c'est le terme qui revient souvent. Authenticité.
Et ils insistent hein, pour la notion de préservation aussi. Ils disent oui, votre île, vous avez su la conserver, c'est drôlement bien, vraiment, vous avez fait des efforts. Ailleurs, c'est pas comme ça. Donc voilà. Donc c'est l'écho qu'on a régulièrement sur cette période-là, quoi.
L'écho aussi, c'est les voitures, non ? Il y a pas des gens qui vous disent il y a trop de voitures sur les lieux ?
C'est un discours, effectivement, que l'on entend souvent. En fait, on tient à l'office, on a ce qu'on appelle des fiches d'appréciation. Et on va dire, la plus grosse proportion de ces fiches d'appréciation porte sur le fait de voir des voitures. Ils sont persuadés qu'en arrivant sur l'île, il n'y a pas de voiture. Donc nous, on est en train de réajuster ça en parlant un petit peu. On a un projet là de ce qu'on appelle un dépliant d'appel. Et sur ce dépliant d'appel, on parle des voitures. On dit, voilà, il y a des voitures, il y a la vie qui grouille, on est 5000 habitants, donc c'est normal qu'on ait des voitures sur l'île.
Qu'est-ce qu'on va retrouver comme autre information sur ce dépliant d'appel ?
Alors, le dépliant d'appel, c'est avant tout un document pour appeler les gens, leur donner envie de venir. En fait, il se trouve qu'on est en manque de documentation sur tout le Nord-Ouest Vendée. Et le Nord-Ouest Vendée, tous les offices de tourisme nous demandent régulièrement « Amenez-nous de la documentation, amenez-nous de la documentation. » Et on est toujours à court.
Mm-hmm.
D'où l'idée de créer ce petit dépliant qui, à la fois, va leur servir, mais aussi va nous servir. Parce que grâce à ce dépliant, on va inciter les gens à venir en séjour et voir ce qu'on fait sur l'île-dieu.
Quelle part représente le tourisme dans la vie économique de l'île-dieu ? 50, 60, 70, 90% peut-être ?
Mais tout ça. Non, mais j'explique.
Oui,
c'est
Michel.
Parce que, ouais. D'abord, je crois qu'il faut bien voir qui sont les touristes. Les touristes, on peut les classer en 5 catégories. D'abord, ce sont nos propres enfants ou notre propre famille ou nos propres amis à nous, qui viennent nous voir. Ils viennent à des moments dans l'année ou en plein été et ils sont touristes. Et ces gens-là vont consommer comme nous et donc ils vont participer en fait à faire vivre d'autres économies, l'économie commerciale, par exemple, l'économie des loisirs, par exemple. Mais ce sont aussi ceux qui louent un hébergement, où on va continuer à en parler. Ceux qui louent un hébergement de vacances, que ce soit en chambre d'hôte, que ce soit en gîte, en chambre d'hôtel, au camping. Il y a bien sûr un revenu direct qui va au loueur ou à l'hébergeur ou à l'hôtelier. Mais en même temps, ces gens-là vont consommer comme tout le monde sur les lieux. Et il y a les résidents secondaires, troisième catégorie, leurs enfants.
C'est une forte
leurs
catégorie,
amis.
Non c'est les résidents secondaires, catégorie... parce qu'ils sont régulièrement sur les lieux tout de même.
Oui, c'est une catégorie. Ils sont à certains moments. C'est-à-dire, pareil, il faudrait dans les résidences secondaires bien voir. Il y a ceux qui viennent pratiquement à toutes les vacances.
Toutes les vacances, oui. À Pâques, à Noël.
À Noël, hein. À Pâques, etc. etc. Ça, ce sont ceux que nous préférons, parce qu'ils viennent aussi en dehors de la saison. Puis ce sont des fidèles, et puis ils se lient d'amitié avec les gens d'Idieu, ils ont des connaissances, voilà. Et souvent, ces personnes-là, au moment de l'âge de la retraite, un certain nombre, après, viennent vivre définitivement sur les lits. Hein, ils s'insularisent, d'une certaine manière. Et puis, il y a les plaisanciers. Les plaisanciers, c'est intéressant parce que ces gens-là...
C'est même très important pour les lieux, les plaisanciers.
Très important parce qu'ils ne consomment pas de foncier. Mais par contre, du fait qu'ils soient dans le port de plaisance, ils consomment les services, ils consomment du commerce, ils consomment du loisir, ils consomment du médecin, ils consomment du pharmacien, etc., etc. Et puis enfin, il y a les visiteurs à la journée. Les visiteurs à la journée.
Est-ce que c'est une grande part de l'île-dieu, les visiteurs à la journée?
À certaines saisons.
Anne ou Michel?
Oui, c'est une forte proportion à l'accueil de l'office. Hein. On tient effectivement les statistiques. C'est 50% de la clientèle qui passe par l'office de tourisme.
C'est énorme.
Non, mais ce ne sont pas 50% des touristes.
Non. Oui,
je crois qu'il faut bien faire la différence. Ce sont les personnes qui profitent à certaines catégories d'activités économiques, les loueurs.
Les loueurs de vélo, entre autres.
Les loueurs de voitures, bien évidemment. Et puis aussi ceux qui ont les autocaristes, le petit train, etc. quoi. Donc les restaurants, les cafés, etc. quoi. Ils consomment un peu, si, parce que. Si, les restaurants, ça marche aussi parce que au mois de juin, au mois de septembre, on va surtout avoir des retraités qui viennent comme ça à la journée. Et souvent, les retraités, ce sont des voyages qui sont organisés et il y a souvent effectivement des arrêts restaurants.
Il y a un pack complet.
Oui.
Anne, tu es d'accord avec ce que dit Michel par
rapport je confirme complètement cette approche. Ouais.
Alors voilà, donc c'est tout ça. Et Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas les touristes, les cinq catégories de touristes que je viens donc de dire, à l'année, il n'y aurait pas la rentabilisation de beaucoup d'activités à l'année. Par exemple, les deux supermarchés, ils ne peuvent tenir à l'année que parce qu'il faut une bonne partie de leur chiffre d'affaires entre avril et octobre.
En gros, on va dire 6 mois, d'avril à octobre.
Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Voilà. Et s'il n'y avait pas ça, ils ne pourraient pas tenir à l'année. Et grâce à cette activité, ils tiennent à l'année. Mais l'ensemble des commerces, les restaurants aussi, les cafés, les hôtels, les maraîchers, les commerces du marché en circuit court, la pharmacie, le centre médical, les structures de loisirs telles que le ciné, c'est très, très important. Ils ne pourraient pas tenir à l'année s'il n'y avait pas des cinémas en saison et où là, ils peuvent faire le plein, les agences immobilières également, mais aussi les entreprises du bâtiment qui ont une activité forte en même temps en direction des touristes qui viennent aménager, construire, renforcer leur maison, les, voilà. Et puis aussi l'achat de poissons en circuit court, que ce soit à la poissonnerie, mais aussi ceux qui vont parfois directement acheter auprès dans des bateaux. Vous voyez. Donc en fait, quand on dit l'activité économique du tourisme, et ce n'est pas uniquement que le tourisme au sens réduit du terme, c'est l'ensemble de notre activité économique qui est fortement influencé par l'activité touristique.
En vous écoutant en parler, chaque île vit directement du tourisme à première vue.
Quasiment.
Hein? Voilà. Et les services proposés aux vacanciers et aux îlets à l'office de tourisme durant la période estivale, si maintenant il y a une période estivale?
Oui, alors les services sont très larges. On reste sur nos métiers de base qui sont l'accueil, donc l'accueil, accueillir le client, que ce soit en langue française ou en langue étrangère.
Vous parlez anglais, espagnol?
Anglais, espagnol, un peu allemand. Il a fallu qu'on parle allemand là récemment parce qu'il y a eu le paquebot, j'allais dire le petit paquebot, mais non, c'était un paquebot qui a accosté. Il y avait 140 personnes et ils sont venus nous voir à l'office. Et là, ils ont demandé à ce qu'on parle allemand. Ça a été un peu compliqué au début, mais ça
vous
a été
en êtes sorti.
On s'en est sorti. Donc c'est vrai que l'accueil. Voilà, c'est notre principal métier. À cet effet, on informe beaucoup, c'est-à-dire qu'on a des supports de communication pour informer, on a le guide pratique, on a le guide des locations, on a le site internet hein, avec 300 000 connexions à l'année quand même. On a les réseaux sociaux, Facebook, dès qu'on a une information. Récemment, là, on a réaménagé l'espace accueil parce qu'il était un peu juste en termes d'aménagement. Et puis, pour véhiculer, c'était un peu compliqué. Et on a créé un espace dédié aux partenaires où il y a plus de 40 emplacements pour les partenaires sur des plexis dédiés. Et on a mis aussi un plexi dédié aux informations communales parce qu'on recevait beaucoup d'informations communales et c'était important de les afficher. Et puis, on a installé également deux écrans télé, un visible de l'extérieur et un à l'intérieur. Donc, on a mis en place de nouveaux outils de communication. Pour autant, les animations sont toujours affichées. On n'a plus d'affiches à proprement parler. Mais ça, c'est parce qu'on est en train de rentrer dans une démarche qualité et qu'il était temps de faire quelque chose. Donc, les affiches sont toutes scannées sur cet écran télé.
Elles sont numérisées.
Voilà, numérisées. Et ensuite, on a le planning des animations qui a été amélioré en format puisqu'il est en A3. Donc, toutes les animations sont sur ce planning de toute façon affichées sur la vitrine de l'office.
Les brochures aussi sont importantes, les brochures pour les visites du patrimoine?
Oui, donc là, on travaille en collaboration avec le service patrimoine. On assure tout ce qui est vente de billets. Donc ça, c'est un autre métier qui fait partie de l'accueil. C'est
vente de billets pour Vivien Normandil, par exemple?
Entre autres, la billetterie. Cette année, nous avons 9 billetteries à l'Office de tourisme pour cet été.
Alors, c'est quoi les 9 billetteries?
Oui, c'est un peu fou cette année. On est victime du succès. On commence cet été par les Voix d'Ukraine. Le 11 juillet, ensuite on a le gospel, ensuite on a Viens dans mon île.
Escale lyrique aussi, non?
Non, Escale lyrique ne fait pas sa billetterie à l'office. Ils préfèrent le faire indépendamment, ils préfèrent avoir le contact direct avec leurs clients. On a également la cavatine. Donc voilà, donc on en a 9 en tout, donc plus les visites du patrimoine, puisqu'on assure la billetterie pour les visites individuelles. Et. Visite individuelle essentiellement, quoi.
L'office de tourisme, c'est une centrale de réservation. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Reste-t-il des locations disponibles en juillet et en août?
Alors, sur le mois d'août, au niveau de la centrale, on va dire que ça commence à être un peu compliqué.
Mais il reste des places.
Il reste un petit peu. Il faut aller aussi voir du côté de nos propriétaires indépendants, hein, puisque nous avons les deux facettes à l'Office de tourisme, chacune ayant la même importance à notre niveau. Et puis par contre, juillet, faut voir la réalité en face.
S'il y a des périodes, un petit peu plus dur.
Il y a des périodes qui, il y a quelques années, se louaient très facilement. Cette année, on a quelques creux. Donc nous, on regarde un petit peu, on analyse.
On se dit comment que ça se passe, pourquoi c'est
oui,
comme ça.
Et ouais. Puis on analyse, on se demande qu'est-ce qui se passe, etc.
Et d'ailleurs, comment ça s'explique? Anne-Michel, si vous avez...
Je crois qu'il y a d'abord une première explication que l'on connaît bien, c'est que on ne passe plus ses vacances comme on le passait autrefois. Et grâce à cause de l'informatique, on est soucieux de ne pas toujours mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, on va passer un temps plus court.
Plus restreint, oui.
Ouais, plus restreint sur un endroit pour aller éventuellement dans un autre. Ou bien on va mettre une partie de nos vacances à Pâques, une autre partie en plein été, en juillet ou août, etc.
Donc, les personnes fractionnent leurs vacances.
Ça fractionne beaucoup plus. Et puis, deuxième élément, la météo est de plus en plus précise et sûre. Et c'est pareil, on peut maintenant chercher... sur Internet, quel temps va faire à Lidieu entre, par exemple, le 10 et le 17 juillet, ben, on est à peu près, on n'est pas sûr, bien sûr, mais ça donne une indication. Et si c'est marqué soleil, 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 alors ça va réserver fort, mais s'il y a quelques nuages qui apparaissent sur l'écran, ça va être beaucoup plus donc, délicat. Donc, c'est plus simple. Et enfin, il y a la question des coûts.
Du coup, oui, j'allais venir.
Quand on voit maintenant certains coûts d'avion aller en Espagne pour 35 euros.
Même en Tunisie.
Ou en Tunisie pour 50
ou
euros.
Ou en Grèce, par
voilà.
exemple. Hein.
Voilà. Pour vraiment pas très très cher, sachant qu'une fois qu'on est sur place, la vie est beaucoup moins chère que chez nous. Eh bien, il faudrait peut-être que sur l'île Dieu... un certain nombre de propriétaires réfléchissent avant de mettre des prix qui sont maintenant, qui sont plus concurrentiels avec ces prix qu'on peut trouver ailleurs. Quoi. Et je crois que ça, il faut qu'on se le dise. Les années ont passé, il faut qu'on prenne bien en compte la réalité maintenant de l'outil informatique qui nous met de plus en plus en concurrence avec des destinations pas chères.
J'ai l'impression aussi que les gens attendent vraiment la dernière minute pour réserver, pour avoir les meilleurs prix aussi. Est-ce que c'est une tendance ?
Oui, mais ici sur l'île Dieu, on n'est pas encore rentré dans le schéma de la promotion de dernière minute. Donc effectivement, ça aussi, c'est des outils qu'on pourrait peut-être mettre en place pour...
inciter les gens.
Voilà, hein. Ça commence hein, tout doucement. Les propriétaires viennent nous voir, oh, tiens, bah, je vais faire une promotion. Mais il n'y a pas de démarche, disons, globale. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une demande de service et de qualité aussi, liée à un certain prix. Mmh. Et on constate aujourd'hui sur le terrain qu'un produit qui a la qualité, le service et le prix, eh ben, il va extrêmement bien loué par rapport à quelqu'un d'autre. Et
ce
il
qui
va
est
prendre,
logique.
Et il va prendre tous les clients. Quoi.
Ce qui est logique.
Ouais. Et c'est une sacrée remise en question, mais les autres destinations le font. On est vraiment dans un secteur hyper concurrentiel aujourd'hui.
C'est très concurrentiel, oui.
Très, très, très.
Donc, grâce à Internet.
Grâce à Internet.
Mais c'est ce qui fait aussi avancer l'île Dieu, non ? Ce secteur concurrentiel ou pas du tout ?
Ah mais moi, je crois tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, Anne vient de parler de la démarche qualité qu'on va mettre en œuvre. Alors, la démarche qualité, c'est quoi ? Bah, c'est assurer le meilleur service de l'Office de tourisme auprès de nos clients.
Mais qu'est-ce que vous appelez meilleur service ?
Mais ça passe, justement. Ça passe. Ce n'est pas uniquement que le service de l'Office, mais c'est le service de tous ceux qui travaillent avec l'Office. Et ça, ça va être une démarche très contraignante, mais ça signifie que les touristes, enfin les gens qui voudront venir à Lidieu, ils verront que Lidieu est qualifié en termes de qualité. Et donc, ça, ce sera un élément qui nous permettra de mieux résister à la concurrence.
Comment ça va se mettre en place ?
Alors ça, Anne va vous expliquer ça.
Je voudrais rajouter par rapport à ce que dit Michel, que c'est une démarche de qualité générale d'une destination.
Tout à fait.
C'est-à-dire, que, je vais donner un exemple hein, tout simple.
Oui, oui.
Quand on met en place des sentiers de randonnée, il faut être à même derrière de les entretenir, de les rebaliser, de repenser si le produit est bon, toujours évaluer quoi en fait, avoir toujours ça en tête.
C'est un sacré travail tout de même, se remettre toujours en question.
C'est énorme et c'est ce que va entamer l'Office du tourisme à partir de septembre-octobre, ce qu'on appelle une démarche qualité, qualité tourisme. Mais avant d'avoir le label qualité tourisme, il faudra que l'Office de tourisme passe en catégorie 1. Or, aujourd'hui, il est en catégorie 3.
C'est quoi la différence ? Catégorie 1, catégorie 3, rapidement.
Oui, rapidement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différences dans le sens où c'est des services en plus. C'est-à-dire, je donne un exemple, le site internet doit être traduit en deux langues étrangères, puisqu'on accueille de plus en plus d'étrangers. Mm-hmm. Ça veut dire des procédures à mettre en œuvre, un accueil super professionnel, avec une écoute, avec une attention. Ça, c'est le détail, mais il y a je sais plus, 80 critères obligatoires et pas loin de 40 facultatifs pour obtenir ce label.
Et cette démarche qualité, ça va impacter quoi pour les loueurs de meublés, par exemple ? Est-ce qu'il y aura des changements à opérer ?
En ce qui les concerne, pas trop dans un premier temps, mais ils vont être face à un moment donné, face à cette fameuse concurrence dont on parlait, de devoir à un moment donné se dire « est-ce que mon produit, aujourd'hui, correspond à la demande ?»
Michel, peut-être quelque chose à rajouter.
Oui, je crois qu'il faut absolument que les loueurs soient en conformité, en lien avec l'effort qui va être fait par la collectivité. Parce que derrière l'office...
Qui dit effort, dit taxe de séjour.
Alors... Ça, c'est
rapidement, Michel, s'il te plaît.
Oui, là, il faut quand même féliciter déjà les hébergeurs et les loueurs parce que en 2 ans, on a quand même doublé le montant de la taxe qui est collectée. Hein, on est passé à 82 000 euros. Hein,
et on rappelle, c'est une obligation pour chaque loueur.
Oui, et ça, c'est très important parce que cette somme là qui est collectée, qui n'est pas payée par les loueurs, mais qui est payée par les gens qui viennent louer, donc par les
qui viennent
touristes,
sur les lieux,
qui viennent entre guillemets, je veux dire consommer donc les lieux. Eh bien, cette somme-là nous sert justement à améliorer tous les services qui sont mis à disposition, tout ce dont nous venons de parler pour l'instant. Alors cet été, quand nous l'avions annoncé depuis un an, il y aura un contrôle qui va être fait. Le contrôle va donc être fait durant tout l'été par une personne dont ce sera la fonction et qui vérifiera que l'ensemble des locations, y compris les locations qui sont faites directement par Internet, hein, feront bien l'objet du versement d'une taxe. Voilà.
Merci Anne Lemasson, directrice de l'Office de tourisme. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci Michel Charrouet, deuxième adjoint en charge du développement économique à la mairie de Lille-Dieu. À très bientôt.
Salut Roland, salut tout le monde.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas, et comme chaque lundi, c'est spécial musique, direction Corsé pour le festival Couvre-feu. On en parle plus en détail avec le programmateur de cette édition. À lundi, bon week-end, bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.